Un bon matin. Oui, on peut. Mais... Alors, merci beaucoup de. Vraiment, j'étais triste de ne pas être là hier avec vous. Parce que c'est une des choses. Pour moi, c'est une chose précieuse. Une église qui dure, une église qui perdure, qui reste dans le temps, qui s'inscrit dans le temps. Pour moi, c'est un trésor inestimable. En tant que missionnaire, quand on se dit. On investit du temps, on donne du temps pour voir l'Église naître dans d'autres pays. Et le grand souci pour moi, c'est est-ce que ça va durer? Et quand je reviens ici, que je vois une Église qui a duré, qui a vécu des beaux moments, hein, des réveils, des temps forts, des temps dynamiques, mais aussi des épreuves, des difficultés, mais qui durent quand même. Et pour moi, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Je me retiens des fois, mais j'aurais tendance à devenir fleur bleue un peu, mais je suis émerveillé. Moi, je suis béni ici à l'église, mais je fais le tour des églises du Québec, puis je me dis qu'il faut que je prenne la peine de leur dire que l'église au Québec est belle. L'église au Québec, elle est inscrite quand même, malgré toutes les visions des fois négatives qu'on peut avoir. Le Seigneur est à l'œuvre. Alors, est-ce que quelqu'un a une enveloppe d'offrande? J'ai oublié de prendre ça avec moi. C'est pas pour Jean-Paul, est-ce que tu as une. Ben, une vide, hein? Pas besoin de me montrer ça. En voyant Michel ce matin, c'est fascinant parce que je me suis acheté un costume. Deux pièces. Oui, un habit traditionnel québécois, hein, avec chemise et cravate. Et il y a deux semaines, j'ai porté ça. Bon, Sophie avait des doutes sur mes choix de couleurs, alors j'ai dit, quelle meilleure façon de lui démontrer mes choix astucieux que de le porter. Alors, une fois qu'il était sur moi, j'ai dit, mais je vais passer la journée comme ça. Avec, j'étais costume, cravate, chemise, tout, en plus tout neuf, hein, c'est le... Alors, je me suis promené comme ça, je visitais des pasteurs à Montréal. Et ce qui était pour moi un événement, hein, c'était, j'étais costumé. Mais personne ne me regardait dans les rues. Hein? Personne dans les rues se disait, « Ah, wow, t'as-tu vu le gars, là, avec la belle cravate neuve? » T'sais, non, pas tout. Je me promenais, puis comme si de rien n'était. Jusqu'à temps que je revienne à la maison et que une petite fille dans ma famille dise, « Papa, t'es bizarre! » Alors, je sais que peut-être pour certains, ce matin, je semble bizarre, mais j'ai un vêtement vraiment que les Touaregs portent au Niger. C'est un vêtement, un beau vêtement, mais pas nécessairement toujours exceptionnel. Ils peuvent porter ça dans la vie de tous les jours aussi. Ce qui fait que si je me promènerais aussi bizarre que je suis ce matin, comme ça au Niger, on me remarquerait pas. Hein? On disait, il constaterait pas que je suis costumé. D'ailleurs, c'était le jour, il y avait le jour de l'Halloween, on était invités dans une église, ils ont habillé comme ça, puis on s'est dit, on veut pas que les gens pensent qu'on est costumé. Si on se promène trop dans les rues, ils vont nous donner des bonbons. Mais voilà, juste pour dire que le rapport aux vêtements, il est différent d'un endroit à l'autre. En introduction, parce que en même temps, vous me connaissez beaucoup. Hein, vous avez beaucoup entendu parler de nos 4 ans. C'est avec émerveillement d'ailleurs que j'ai réalisé que vous nous suiviez plus qu'on pouvait l'imaginer. Hein, je visite les cellules aussi dans la semaine, puis tout le monde me dit à chaque semaine, Michel mettait quelque chose sur les marinos. Et vraiment, je veux dire merci, puisque en effet, on revient puis on a l'impression qu'on n'est jamais parti dans un sens, puis c'est une bénédiction. Alors, c'est ça pour dire que dans une certaine mesure, je me sens comme un magicien dont tous mes trucs sont connus. Dans une certaine mesure. Mais juste pour faire une petite introduction, nous sommes vos missionnaires, les missionnaires de l'ACM. Et donc, quand vous donnez dans l'offrande et que vous mettez un don dans Mission Mondiale, eh bien ça va pour notre nourriture, si je peux dire. Ça va pour c'est pour notre vie de tous les jours. C'est pour notre pain puis notre beurre. Donc, je veux vous dire d'abord merci. Merci de donner à la mission mondiale. Et c'est ça qui nous permet, justement, la mission évalue le coût de la vie dans chaque pays et redistribue l'argent en fonction du coût de la vie pour chacun des missionnaires. Et selon aussi le nombre, selon les enfants, ce qui fait que les missionnaires, on n'a pas un salaire, on appelle ça une allocation. Et de façon anecdotique, quand mes enfants vont quitter la maison, mon allocation va diminuer. Souvent, ils nous disent ça un peu en blague, on est vraiment parmi les seuls qui, quand on gagne l'expérience, on va perdre dans notre revenu. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est calculé en fonction du coût de la vie, alors on ne s'en inquiète pas, mais je vous dis merci. Et si vous ajoutez dans spécial, si un jour vous écrivez spécial Daniel Marino, eh bien là, à ce moment-là, ça va aller plus directement dans notre travail, des exemples de choses que je vais vous parler ce matin. Mais si vous dites, mais c'est ça, si tout le monde donne pour mon travail, vous allez voir que je pourrais nourrir des enfants, mais je pourrais peut-être plus manger moi. Alors, il faut continuer de donner à la mission mondiale. Merci beaucoup. Ah oui, j'ai un petit peu ici. Je sais que j'ai déjà fait un quiz, je l'ai fait avec vous. Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle combien... Ça, c'est le turban Touareg que je porte là, d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un se rappelle la longueur du turban? 5 mètres! Merci, Isabelle. Je savais, tous mes trucs sont connus. Alors, en effet... Mais le grand avantage qu'il y a, c'est que c'est quand même un tissu léger. Vous connaissez déjà les avantages du turban. Les gens, parfois je me promenais en bus de brousse, en taxi de brousse, qui est une sorte de comme un Westphalia. Et j'avais mon turban. Et ce qui était cocasse, une fois je suis assis là anonymement, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je parle en français à quelqu'un que je savais qu'il parle français. Et la femme à côté de moi, elle a fait un saut. Puis toutes les autres autour de moi, ils étaient tous surpris parce qu'ils se disaient, je pensais que c'était un Touareg. Parce qu'ils ne pouvaient pas me reconnaître comme tel. Et aussi, il y a une expression, les Touaregs sont reconnus... pardon. Ah, voilà, ça c'est les Niger. Voilà. Ah, on voit peut-être pas beaucoup, mais les Touaregs ne sont pas nécessairement très, très noirs. Alors, ils ont le surnom, mais c'est un surnom, mais c'est aussi la description, on dit qu'ils sont rouges. On dit, ah, celui qui est rouge. Parce que en Afrique, on discerne beaucoup les gens, on les distingue beaucoup en fonction de leur couleur de peau. Hein? Alors que pour nous, c'est blanc ou noir, mais en Afrique, on va dire, ah, lui, il est teint clair, lui, il est teint foncé, ah, lui, il est rouge. Et on va beaucoup distinguer comme ça. Alors, les Touaregs sont appelés comme sont surnommés les rouges. Parce que souvent, ils ont le teint plus clair. Et quand j'arrivais dans un village en turbané, et comme vous savez, on se promène pas en t-shirt là-bas, ni en short. On se promène toujours avec des pantalons longs. Et souvent, on peut avoir des manches longues aussi, même s'il fait chaud. Alors, notre teint ne paraît pas nécessairement. Et s'il y a beaucoup de vent et beaucoup de chaleur, on se cache un peu. Et j'arrivais dans les villages où j'abordais des gens pour discuter avec eux en Touareg. Et là, il y avait des femmes Touareg qui me regardaient et disaient, « Toi, là, t'es-tu rouge ou blanc? » Et c'était l'expression pour dire, « Si j'étais blanc, ça veut dire que j'étais un Européen ou un étranger de l'extérieur. Et si j'étais rouge, ça voulait dire que j'étais un Touareg natif. » Mais elles ne pouvaient pas faire la différence à cause du turban, en bonne partie, et aussi, bon... à cause du fait que je parlais Touareg avec les gens. Néanmoins, j'ai un gros accent en Touareg, que si vous êtes moindrement au courant, les gens pouvaient reconnaître que je ne suis pas un Touareg. Voilà. Alors, comme je disais, comme vous le savez aussi, on travaille à atteindre les Touaregs. Alors, ce matin, je voulais... J'ai-tu touché quelque chose? Ce que je voulais, c'est vous aborder le sujet de notre travail là-bas sur un angle un peu différent, un peu parabolique, si je pourrais dire. Je voudrais vous parler d'une aventure qui est arrivée un jour. J'ai utilisé des photos, mais ça, vous allez comprendre après. Ah oui, ça c'est pour dire qu'on travaille avec les Touaregs encore, on voit toujours les buts. Je voulais vous raconter ce matin qu'un jour, un missionnaire est parti vers un village, vers une ville étrangère. Même si c'est ma photo de moi, et ça c'était mon ancienne voiture, là. J'ai une autre voiture que ça maintenant, mais je vais rester sur l'histoire de l'autre missionnaire. L'autre missionnaire, lui, est parti dans un village, il est rentré dans un village et il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui vraiment les entourait et ils étaient tous curieux de voir ce missionnaire-là, de le rencontrer, ce missionnaire-là. Dans le cas du missionnaire dont je vous parle, la particularité, c'est que il allait dans les villages, il allait dans les endroits, il soignait les gens et les gens étaient guéris. Les gens, ils guérissaient sous ses mains. Alors, tous les gens étaient curieux de venir le voir, tous les gens voulaient s'approcher de lui, puis vraiment découvrir, tu sais, peut-être avoir la chance d'être guéri, peut-être avoir l'occasion de vivre une rencontre spéciale. Mais il y en avait un parmi le village qu'il y avait de la difficulté, il n'arrivait pas à le voir. Hein? Il y avait tellement de monde qui assaillait le missionnaire, il n'était pas capable de le voir. Alors, il a décidé de grimper dans un arbre. Alors, dans cette perspective, il s'est dit, si je grimpe dans l'arbre, à partir d'en haut de l'arbre, je vais être capable de le voir. Et de là, le missionnaire, en effet, l'a remarqué, parce que c'était pas un enfant, cette fois-là, qui était dans un arbre, mais c'était un homme du village. Et le missionnaire dit, « Hey, tu sais, ça donne bien que tu es là. Je devrais aller manger chez toi. » Alors, l'homme qui est dans l'arbre, il est tout émerveillé, puis il se dit, « Ah, wow, c'est génial, le missionnaire veut venir manger chez moi. Pourquoi pas? » Alors, il l'invite, et il l'accueille, ils s'assoient ensemble, et il rentre chez lui. Il est bien accueilli chez l'homme qui était dans l'arbre, et il passe la journée qu'ils sont là. La particularité, c'est que cet homme-là, vous l'avez peut-être reconnu, est-ce que quelqu'un a un indice? Est-ce que quelqu'un a compris de qui je parle? Définitivement. Hein? Eh bien, la particularité, c'est que le missionnaire en question, c'est notre Seigneur Jésus. Mais tous les gens du village regardaient l'homme qui était dans l'arbre, qui s'appelle Zachée, qui était un publicain, qui était celui qui collectait l'argent des gens et qui les escroquait en même temps. C'était celui qui dit, bon, faut que tu payes tes impôts, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de retenue sur le salaire à la source. Alors, c'était lui qui venait et qui disait, hey, tu dois maintenant 40% de ta paye au gouvernement, même si peut-être que le gouvernement voulait juste 15%, mais les hommes comme Zachée ambitionnaient un petit peu. Alors, vous imaginez juste la réputation qui s'est faite, et personne n'aime vraiment Zachée. Et tous les gens du village, quand ils voient Jésus rentrer chez Zachée, se disent, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il s'en va manger avec un pécheur. Mais qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Parce que pour les gens de l'époque de Jésus, c'était pas le Fils de Dieu encore, il n'avait pas réalisé qui il était. C'était un homme, il le voyait comme un pasteur, un missionnaire, comme quelqu'un d'ordinaire. Il dit, comment ça se fait que lui va manger avec un pécheur? Comment ça se fait que lui va manger avec un escroc, avec un voleur? Mais Jésus, lui, ne voyait pas Zachée de cet œil-là. C'est pas comme ça que Jésus regardait Zachée. Jésus voyait quelque chose d'autre. Et Zachée, on ne connaît pas le discours que Jésus a eu chez Zachée. Hein? Ça serait fascinant. Je sais que si on avait ce texte-là, on nous aurait fait un modèle comment parler avec les gens. Voici 3 étapes ou 4 étapes ou 6 étapes. Mais on ne sait pas ce que Jésus a dit exactement chez Zachée. On sait seulement une chose, c'est qu'il a mangé avec lui. On sait seulement une chose, c'est qu'il s'est invité chez Zachée. Dans toute la foule qu'il y avait là, il devait en voir des gens. Ça me fait penser, c'est amusant parce que nous, vous ne le constatez pas, tu sais, mais juste vous montrer, On peut discerner dans les vêtements des gens de quelle classe qu'ils sont. Oh, il faut que je recule trop loin, mais je vais vous montrer, juste faire un parce que Jésus, lui, l'a remarqué, c'est certain, tout de suite, quand il est arrivé dans le village, puis que toutes les gens qui l'entourent, Jésus aurait tout de suite remarqué que l'homme qui était en bleu avec le turban blanc était de plus haut et plus en moyen que l'homme qui est à côté de Francis Pearson. Et logiquement, quelqu'un comme vous et moi, on arrive, on voit ça, on va dire à Rally, il s'appelle Rally, l'homme en bleu. Rally, il faut que j'aille manger chez toi. Parce qu'on regarde l'homme en vêtements rayés noirs, là, puis on se dit, c'est quand même moins de classe. T'sais? L'homme en vêtements rayés noirs s'appelle Ria. C'est des noms touareg d'ailleurs. Mais Jésus, il voyait tout ça. Il pouvait voir qui était de quelle classe était chacun des personnes. Et néanmoins, il voit l'homme en haut, qui était certainement bien habillé quand même, hein, parce que à charger 40% d'impôts aux gens quand il en avait fait des réserves un peu. Mais Jésus va quand même faire appel à ce petit bonhomme-là qui est dans l'arme. Et il dit, je m'en vais manger chez vous. C'est la seule chose qu'on connaît dans l'Évangile que Jésus a dit jusqu'à ce point-là. Mais ça a eu un impact. Pardon, j'avance les photos. J'ai reculé. Mais on sait que ça a eu un impact. Parce que Zachée, après sa soirée, après son repas avec Jésus, et pas seulement avec Jésus, hein, parce que Jésus arrive avec ses disciples. Hein, ça fait combien de gens à table, ça, minimalement, avec Jésus et ses disciples? Il y avait combien de personnes avec Jésus? Au moins 12, hein? Et on sait que c'est quand même arrivé une fois que Jésus a envoyé les 70, alors ils étaient peut-être plus que 12. Alors quand Jésus dit à Zachée, je m'en vais manger chez toi, c'était pas non plus seulement c'est en tête à tête, c'est avec tout son groupe. Mais ce qu'on sait, c'est que Zachée, lui, il a une réaction, il dit, je mets ma vie en règle. La moitié de ce que j'ai, je le donne aux pauvres. Puis si j'ai volé quelqu'un, si j'ai escroqué quelqu'un, je lui vais lui rendre, je vais payer 4 fois ce que je lui ai volé. Incroyable, hein? Qu'est-ce que Jésus avait vu autre qu'un pécheur pour oser aller manger chez lui et que sa vie soit transformée comme ça? Si ça avait été un des autres villageois, les autres villageois avaient dit, hey, on s'en va manger chez le pécheur, il faut le mettre en règle. Jésus a vu d'autres choses. Qu'est-ce que Jésus a vu? Mais je vous partage, c'est le défi, je vous partage d'un point de vue missionnaire, c'est notre défi missionnaire, mais je crois que vous pourrez l'attacher à votre situation aussi. Les Touaregs, surtout ceux qui sont les plus rouges, malheureusement, sont très racistes. Dans leur pensée, historiquement, c'est les seigneurs, c'est les guerriers, c'est eux autres qui règnent sur toute c'est eux qui régnaient. Mais ils ne travaillaient pas par conséquent. Eux, ils protégeaient les gens. Puis si tu récompensais pas leur récompense, tu avais besoin d'être protégé par quelqu'un d'autre d'eux. Aujourd'hui, on appellerait ça... Hein? Oui, c'est ça, exactement. En fait, aujourd'hui, ça ressemblerait à ça. Mais pour que ce soit plus intéressant d'y penser à eux, ce serait de penser à l'époque médiévale, dans le temps qu'il y avait des chevaliers, des princesses, naturellement, mais qu'il y avait des troubadours et aussi des petits cultivateurs. Et dans la pensée des Touaregs, il y a vraiment toute cette hiérarchie-là. Plus que tu es rouge, plus que tu es pâle, tu es un guerrier, un seigneur, un noble, et plus que tu deviens foncé, tout en étant toujours Touareg, bien, ça veut dire que tu es un cultivateur, tu es quelqu'un qui est de plus basse classe. Parce que les nobles ne sont pas cultivateurs, ils sont nomades, ils se promènent avec le troupeau, mais ceux qui sont plus basse classe, qui doivent cultiver aussi, parce qu'étant protégés par les plus nobles, ils doivent bien leur donner quelque chose à manger aussi. Et les Touaregs ont beaucoup cette pensée, donc une pensée très classée, très raciste. Et souvent, j'entendais des Touaregs qui me parlaient, ils disaient, ils me parlaient des Noirs, ils me disaient, regarde les Noirs, c'est des bêtes, c'est des... parce que dans leur tête, c'est des anciens esclaves aussi. Alors, les esclaves, c'est juste bon pour recevoir des coups de bâton. Et vraiment, ils disaient des paroles que, plus méchantes que j'ajouterai pas. Et là, je me disais, à un d'entre eux, d'ailleurs, je disais, il s'appelait Mohamed. Je dis, Mohamed, si tu dis ça dans mon pays, je t'envoie en prison. Puis là, il passe par-dessus. Il réalise pas, par exemple, quand ils envient l'Occident, qu'on a une autre mentalité à ce niveau-là, par exemple. Mais vraiment, parfois, c'est très, très, très méchant. C'est pour ça que je vous ai montré notre chien qui s'appelle Nala. Parce que dans les propos racistes, il allait comparer les êtres humains à des animaux, bien souvent. Puis il dit, oh, regarde, leurs enfants sont mal élevés, ça saute partout. Et parfois, si j'étais pas aguerri, j'aurais été tenté de me laisser séduire par ce discours raciste-là. Parce que tu vois, on arrivait dans un endroit, tous les enfants viennent, ils courent vers nous, ils nous touchent, ils sont tous énervés. Et en fait, un peu comme notre chien qui, dès qu'on rentrait dans la cour, il sautait partout. Il a déjà décroché les lunettes d'une personne, bon, à peu près de ma taille, là, c'est pas un grand exploit, mais il sautait assez haut pour faire sauter les lunettes. Et là, il était tout énervé tout le temps. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé, il y a des jours que mon chien était énervé, puis il y a des jours que mon chien n'était pas énervé. Et là, j'ai dit, bon, peut-être faudrait-je comprendre parce que Madame Sophie, elle, ça l'énervait beaucoup d'ailleurs que notre chien soit bien énervé, parce que surtout quand on rentrait dans la cour avec de la nourriture, et là, le chien, il était là, puis il sentait les sacs, puis il sautait partout encore plus. Fait qu'on a commencé à faire un lien, le chien est énervé, on arrive avec la nourriture, il est encore plus énervé, donc ça doit vouloir dire qu'il a faim. Et comme de fait, on a réalisé qu'il refusait certaines nourritures qu'on lui donnait. Puis il y a des jours que, en bon maître que je suis, malheureux pour l'animal, j'oubliais de lui donner à manger. Alors, plus j'oubliais de lui donner à manger, plus que le chien était énervé. Et bien, dans une certaine mesure, on a réalisé qu'au Niger, que de l'œil du Touareg, il voit juste lui des enfants, par exemple, énervés. Il voit juste des gens qui semblent mal intentionnés. Mais on a découvert que les enfants en particulier, les gens, ben, ils avaient faim. Et ils ont faim. Et dans cette mesure-là, on voit plus, on regarde plus simplement au comportement, mais on voit une réalité qui est simplement banale, simplement ordinaire, simplement humaine. Les gens autour de nous sont des humains. Et c'est la chose particulière que je crois que Jésus a vue. Quand il a vu Zachée dans l'arbre, il n'a pas dit « Ah! » Il ne s'est pas dit, tiens, lui, il va vouloir me taxer. Il va vouloir venir me demander que je lui paye l'impôt. Puis il va vouloir m'escroquer. Il n'a pas pensé ça d'abord. Il dit, ah, tiens, voici un humain qui cherche Dieu. Voici un homme que Dieu a créé à son image. Puis il cherche, il veut connaître Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, ça tombe justement bien, je m'en vais chez toi. Et c'est le défi qu'on devait toujours se garder, c'est de découvrir okay, comment Dieu regarde les gens, comment Dieu regarde justement les hommes, les femmes autour de nous. Non pas selon mon regard automatique, hein, comme je dis, vous pouvez me regarder, vous dites, ah lui c'est un hurluberlu, qu'est-ce qu'il fait costumé comme ça? Mais il faut regarder au-delà des fois de l'apparence, au-delà des fois même du comportement que la personne nous fait et qui nous provoque. Un des domaines qui nous provoque souvent, et c'est la chose qui nous frappe quand on arrive au Niger, c'est le domaine de l'argent. Comment on gère l'argent? Et quand on arrive au Niger, par exemple, les gens sont très pauvres, mais ils sont beaucoup plus relax avec l'argent. C'est-à-dire que si je prends aujourd'hui un montant d'argent que je donne ça à quelqu'un, le soir, il n'y en a plus. C'est pas particulièrement parce qu'il a dépensé, c'est parce que l'argent n'a pas de valeur essentielle pour lui. Un jour, là, je dis ça pour l'argent, mais ça peut être pour d'autres choses. Un jour, j'avais un tube de polysporin. On avait apporté quelques tubes de polysporin avec nous parce qu'on s'est dit, si on tombe, si les enfants se blessent, on veut pas que ça infecte. Puis là, il y a du sable, là, vous remarquez. Et on dit, on veut pas qu'il y ait de la saleté. Puis ça s'est fait. Alors, on avait apporté une couple de tubes de médicaments et d'antibiotiques comme ça. Puis là, après un an, on découvre qu'on l'utilise pas beaucoup. Puis c'est pas. On avait apporté peut-être 6 tubes. On s'est dit deux par. Un et demi par année. On découvre finalement, après un an, on n'a pas utilisé tout un encore. On en a de spare, puis j'ai un gardien, d'ailleurs Mohamed, le Touareg de tout à l'heure, qui s'est blessé, puis je sors le tube, puis je dis, tiens, regarde, tu mets ça un peu, c'est juste un petit peu de pommade, là, tu sais, tu t'en mets pas une tonne, puis tu vas voir que ça va te soigner. Puis tiens, je te le donne, amène-le à la maison, garde-le dans ta, tu sais, dans ta pharmacie quelque part. Alors, il part avec le tube, il guérit en temps de le dire, naturellement. Et quelques jours après, il vient me voir, il dit, « Hey, c'est fantastique, hein, ton tube! » Il dit, « Mon voisin qui est venu, il était tombé, je ne sais pas de comment, comme sur l'asphalte, il était tout éraflé partout, il y avait des plaies partout. Hey, j'ai pris le tube, j'ai dit, « Hey, prends ça! » Et il s'est tout beurré avec ça, puis le lendemain, il était guéri. Et là, je me disais, moi, le tube, il m'a fait plus qu'un an. Je lui ai donné, puis il a fait 2 jours. Et là, on s'est commencé à se dire, oh, à ce rythme-là, nos tubes, ils vont pas si vite. Mais en même temps, c'est fascinant, parce que il y a tout un autre rapport au bien, tout un autre rapport, une autre mentalité aux objets. Ce qui fait que pour un Nigérien, pour un Touareg, entre autres, si tu en as de quelque chose, ben, on l'utilise. Nous, si on a quelque chose, on le calcule, on l'évalue. Et ça devient, à un moment donné, quelque chose d'irritant parce que ce Mohamed, quand il y a eu d'autres blessures ou que quelqu'un d'autre est venu, ben, il est revenu. Hein? Il dit, hey, t'as-tu encore de ton médicament? Parce que dans sa tête, il y en a. Et ça, des fois, ça devient irritant parce qu'on se dit, écoute, est-ce qu'il me prend? Il vient toujours me demander. Est-ce qu'il me prend comme une banque, comme une pharmacie, comme un endroit comme ça? Mais finalement, il faut regarder au-delà. Au-delà du comportement qui nous irrite, qui nous achale, qui nous blesse. Pour être capable de se rappeler, mais finalement, c'est toujours un humain. Et c'est toujours un humain que Dieu aime. Et qu'aussi, il y a peut-être quelque chose que je peux, dans notre cas à nous, il y a peut-être quelque chose que je peux apprendre de ça. Je vous présente Denis, un des êtres humains qu'on côtoie au Niger. Denis, c'était un homme, je l'ai embauché un jour pour être notre cuisinier, parce qu'on avait fait un voyage au village avec d'autres Blancs. On a fait un sondage dans un village pour trouver les besoins, justement, humains du village. Et j'avais besoin d'un cuisinier. Je savais que Denis se débrouille bien en cuisine. Alors, Denis vient avec nous et il cuisine pour les gens. Denis n'est pas Touareg, il n'est pas Nigérien non plus, c'est un immigrant, hein, c'est un étranger dans le pays, mais c'est un chrétien fidèle qui est dévoué, qui est à l'église et qui dirige la chorale, vraiment une bénédiction. Alors, Denis vient avec nous, on fait le repas, et en même temps, ça devient une sorte de... ça devient un discours en même temps. Pour nous, de travailler avec Denis, on n'a rien dit. Mais on a montré aux Touaregs qu'on travaille avec des Noirs. Et que des Noirs, on leur donne un rôle important. Ça dit quelque chose. On n'a rien parlé encore. On n'a pas parlé que tous les êtres humains sont égaux aux yeux de Dieu. J'ai pas eu besoin de discourir ça. J'ai juste travaillé avec Denis. Mais Denis, après avoir travaillé avec nous, il perd son travail. Alors, j'ai été vraiment béni parce que son pasteur lui a dit, « Denis, ne t'en va pas, quitte pas la ville, fais confiance à Dieu, commence ton restaurant. » Alors, Denis a commencé son restaurant. Et nous, on lui a donné un bon coup de main financier aussi pour qu'il démarre. Alors, Denis, il fait son restaurant. Un jour, comme vous savez, on fait une cantine que je vais vous montrer un peu après. Et là, j'avais plus personne. J'avais plus le droit d'aller au village. Là, on faisait la cantine pour les enfants. Là, on nourrissait les enfants. Alors, je suis obligé de travailler avec quelqu'un. Et là, je pense à Denis et je décide, tiens, en fait, c'était par hasard, je m'étais retrouvé au marché, je devais acheter la nourriture pour la cantine. Mais moi, même si des fois, il y a des gens qui me demandent si je suis rouge ou si je suis blanc, il y a une chose qui est claire, c'est que je suis en moyen. Alors, quand vous allez négocier quelque chose au marché, c'est un peu difficile de ne pas vous faire avoir. C'est comme si tous les marchands deviennent des espèces de zachés qui vont nous taxer un peu plus. Mais ça arrive que je croise Denis dans le marché qui, lui, fait ses achats pour son restaurant. Lui, il connaît ça, acheter de la nourriture, c'est pas un problème pour lui. Alors, il me dit, « Ah, monsieur Daniel, viens, donne-moi ta liste, je vais te faire ça. » Puis il part avec ma liste, puis là, il m'a tout trouvé les meilleurs prix. Même à la fin de l'année, ça nous a coûté tout moins cher que ce qu'on avait prévu. Et le seul problème, c'est que notre cantine était financée par, on appelle ça le grenier canadien. Hein, c'est le Food Grain Bank, Canadian Food Bank Grain. Dans l'Ouest, en tout cas, c'est des dons de chrétiens fermiers. Et là, eux, à la fin de l'année, ils ont dit, « Comment ça, vous n'avez pas respecté votre budget? » Tu sais, vous êtes vraiment en dessous de ce que ça coûte. Ce qui était prévu, parce qu'on l'avait prévu, nous autres, qu'on se ferait bien plus avoir que ça. Mais avec Denis, ça a coûté beaucoup moins cher. Mais quand je ne pouvais plus aller dans le village, à un moment donné, je dis, « Ben, là, j'ai vraiment besoin de Denis, pas justement pour acheter la nourriture, mais il faut qu'il soit mon relais là-bas, il faut qu'il soit mon discours là-bas. » Et grâce à Denis, vraiment, on a pu amener la nourriture. Et ça, c'était juste un petit voyage. Ça, c'est le premier voyage qui m'a permis d'acheter. Mais après ça, Denis, c'était un camion qui amenait complètement là, jusqu'au village. Mais quand j'ai commencé à travailler avec lui, il y a d'autres collègues, d'autres missionnaires qui m'ont dit, « Mais attention, Daniel, qu'est-ce que tu fais là? » Parce que là, à ce moment-là, je ne peux plus aller, moi, apporter ça. C'est ma voiture. Là, vous voyez les sacs de riz sur le toit. C'est moi qui apportais la nourriture au village. Tu sais, j'avais un contrôle parfait sur l'inventaire. Et là, au début, j'ai certains collègues qui m'ont dit, « Mais Daniel, tu y penses-tu? Tu vas prendre au moins 1 500 $ dans un mois. Tu vas mettre ça dans les mains d'un Nigérien, de quelqu'un de sur place. On va perdre le contrôle. » On va dire, qu'est-ce qu'il dit qu'il ne va pas manger cet argent-là? Et moi, j'ai dit non, Denis, j'ai confiance en lui. Et je le traitais avec cette confiance-là. Et Denis le percevait qu'à mes yeux, il était un être humain, comme normal, finalement. Et comme je dis, justement, Denis, au lieu de nous escroquer, de se cacher de l'argent dans ses poches, eh bien, il nous en a fait économiser. Il nous en a fait économiser beaucoup. Et ça, c'était une bénédiction. Mais, comme je disais, d'avoir ce regard-là, non plus de dire, « Ah, c'est un pécheur! » Ah, parce que Denis, quand je l'ai choisi, il faut savoir qu'il était endetté. Il vient de démarrer son restaurant, il a des dettes. Et si vous voyez quelqu'un qui est endetté, puis vous dites, « OK, je te donne un job, je vais te mettre de l'argent dans les mains à tous les mois, plus que ce que tu peux gagner toi-même. » Peut-être que nous-mêmes, on y penserait ici, hein, si on voudrait faire une parallèle, supposons qu'on donnerait 10 000 $ à quelqu'un à tous les mois, à quelqu'un qui a une hypothèque et qui a des dettes, peut-être qu'on se dirait, on est mieux, peut-être mieux de trouver quelqu'un qui a une vie stable, tu sais, qui a fait ses preuves, qu'on a son diplôme. Alors, je dis ça juste pour faut comprendre la perspective des gens qui me critiquaient. Mais la bénédiction, c'est que néanmoins, Denis, lui, il était valorisé. Aujourd'hui, son restaurant fonctionne encore. Pendant qu'on était là, un mois avant notre départ, il a pu se marier, il s'est marié avec Fatih. Et il continue d'être un témoin, il continue d'aller au village. Et un jour, les villageois, Touareg, eux, nous ont dit quelque chose. Parce que ça, c'était dans un sens, là, je travaillais avec Denis. Denis, c'est pas un Touareg. Moi, je suis envoyé pour travailler avec un Touareg, avec les Touaregs. Mais un jour, les villageois ont dit quelque chose à Denis. Et là, j'ai été béni parce que je me suis dit, « Ah, ça, c'est le Seigneur. » Les villageois qui l'ont vu arriver avec la nourriture, ils disent, « Une chance qu'on t'a vu avec M. Daniel, toi. Puis une chance que tu n'es pas un Touareg. Parce que si tu étais un Touareg, on serait sûr que tu essaierais de nous voler, de nous escroquer. Mais parce que tu es un étranger, puis parce qu'on t'a vu avec M. Daniel, on sait que ce que tu as acheté au marché, c'est ça qui arrive ici. » Et les villageois l'ont reconnu, l'ont comme béni, même s'ils sont musulmans. Ils ont dit, on est content que c'est un gars comme Denis qui vient, parce qu'on sait qu'on peut y faire confiance. Alors ça, c'était une bénédiction. Et tout ça, du fait de regarder quelqu'un, non pas avec la critique d'abord, mais en disant, hey, c'est d'abord un humain créé à l'image de Dieu. Il m'est venu un blanc, ça m'a donné une autre image, mais ça ne devait pas être prévu. Alors, comme vous le savez, et grâce à la continuité du travail de Denis, eh bien, on avait découvert un village, il y en a plusieurs. Maintenant, il y en a même plusieurs villages qui nous attendent, et ça, c'est l'école de Tagantasu. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. Est-ce que quelqu'un est capable de répéter ce mot-là? Ah, merci. Tagantasu. C'est certainement parce que vous m'avez suivi pendant 4 ans que vous avez vu mes lettres de nouvelles. Mais voilà l'école. Et ça, en fait, même c'est avant qu'on commence la cantine. Avant qu'on commence la cantine, il y avait 70 enfants qui allaient à l'école. Et les villageois, moindrement qu'ils avaient une bonne excuse, ils n'envoyaient pas leurs enfants à l'école, ils le gardaient pour travailler soit dans leur champ, dans leur maison, pour aider aux enfants. Et quand on a apporté la cantine, ce qui était la demande du chef du village, d'ailleurs, c'est lui qui nous a dit « il faudrait aider nos enfants ». Et ça, c'est une autre bénédiction, parce qu'on pense toujours « ah, les gens, ils vont vouloir nous escroquer, nous... » Quand on arrive là-bas, on voit des gens qui sont comme tellement pauvres et on pense, on a toujours une certaine réticence. Et lui, il arrive et il ne dit pas « ah, il faut m'aider, moi je suis pauvre, je suis un chef pauvre, il faut me donner... » Il dit non, il ne demande rien pour lui. Il dit « il faut prendre soin des enfants, j'aimerais ça que les enfants réussissent à l'école. » Il dit « j'aimerais ça que vous fassiez une cantine à l'école. » Alors, on a commencé cette cantine-là, l'école a doublé. Et cette année, ça l'a encore augmenté. Et c'est ça, cette année, pendant notre absence, ça l'a encore augmenté. Et c'est pour dire que notre travail là-bas à Tagantasu, je suis toujours à Tagantasu à cause de Denis, entre autres, et de Halima que je vais vous montrer un peu plus tard. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé. Ce que j'ai commencé à faire aussi à Tagantasu, j'ai dit, je ne peux pas seulement leur amener la nourriture là. J'ai commencé à faire comme une formation des comités des gens. Ça, c'est des villageois de Tagantasu qui sont là-bas. Et que j'ai rassemblé, que j'ai fait une formation pour pour qu'ils soient en mesure de prendre soin aussi de la cantine et des autres besoins de leur village. Et entre autres aussi, je ne suis pas arrivé et je ne leur dis pas, voici, vous avez besoin de tout ça. Et ils étaient frustrés au début. Ils m'ont dit, voyons, Daniel, il faut que tu nous donnes une description de tâche, il faut que tu nous dises, il faut que tu sois notre patron. Et je dis, moi, je ne serai pas toujours là. Je dis, vous êtes capable de le découvrir. Vous êtes capable de le voir. Mais même, je vais des fois un peu plus loin, parce que je leur parle aussi de Dieu. Et c'est important. Mais ce sont des musulmans qui ne sont pas vraiment intéressés à entendre parler de Jésus. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est la raison, entre autres, pour laquelle on fait de l'aide humanitaire au Niger. C'est parce que si je leur parle, je vais les visiter, puis je leur parle directement de Jésus, tout de suite, eux, ils vont me fermer la porte. Le seul fait que, comme je vous disais, à Tagantasu, j'ai jamais parlé ouvertement de Jésus dans mes premiers contacts. Et le seul fait qu'ils ont vu ma voiture dans le stationnement d'une église ou devant une église, les a poussés à me dire un jour, on ne veut pas que tu viennes dans notre village, au tout début que j'allais les voir. Ils disent, on ne veut plus que tu viennes. Et heureusement, le chef, je loue Dieu pour le chef qui est sage, hein, Dieu a donné de la sagesse, et le chef il est revenu et il dit, pardon, on a parlé trop vite, on veut que tu viennes et que tu nous aides. Mais la première chose, ils ont dit, tu veux certainement nous forcer à devenir chrétien. Et il dit, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je dis, c'est vrai que je suis un chrétien. C'est vrai que si vous voulez devenir chrétien, je vais être content et je vais vous aider à devenir chrétien. Mais Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Ce n'est pas moi qui vais venir dire, je vais aider juste les chrétiens et je n'aiderai pas les musulmans. On a apporté l'aide. La cantine, elle est pour tous les enfants. Mais au travers de ces petites paroles-là que je parle comme ça, parce que j'affirme ma foi, on affirme notre foi, on dit des paroles bibliques, eh bien, il y a des gens qui ont déjà entendu l'Évangile et qui reviennent nous voir. Je ne sais pas si vous en remarquez un qui a des vêtements plus colorés que les autres. Un vêtement en rose, là. C'est Abou avec le turban vert. Il s'appelle Abou. Et ça, c'est très chic, hein. Lui, il est le plus chic de la gang, là, honnêtement. Et moi, je dis pas des blagues, vous pouvez rire, ça ne me dérange pas, mais je vous le dis, il est vraiment, tout le monde veut avoir ça. Et même le rose, c'est très, très, il y a aucune connotation pour eux. Mais Abou est venu me voir, puis il dit, « Hey, moi, quand j'étais au Nigeria, là, j'ai connu des pasteurs, j'ai connu des gens, mes patrons, c'était des chrétiens. T'as-tu de la littérature chrétienne pour moi? T'as-tu quelque chose? » Il dit, « Moi, je suis capable de lire le français. Apporte-moi quelque chose. » Et là, aussi le coup, j'étais toujours méfiant. Hein? Je voyais Zachée un peu différemment. Je le voyais pas tout de suite comme un être humain qui cherche Dieu, qui est grimpé dans un arbre. Je me suis dit, « Ouh, lui, il doit vouloir quelque chose dans mes poches. » Alors, je l'ai fait attendre. Puis là, il me dit, « Coudonc, je te demande toujours la même affaire, tu vas-tu me l'apporter? » Et je dis, « Bon, OK, pas de problème. » Je vois qu'il récidive, il me demande toujours la parole de Dieu. Alors, je lui ai apporté un évangile. Et par la suite, malheureusement, comme j'ai été interdit de retourner au village à cause des menaces qu'on avait eues, des menaces d'enlèvement, mais je pardonnerai, hein, je saute des bouts. Vous pouvez me poser des questions sinon après, parce que je crois que vous êtes beaucoup au fait de certains détails, là, mais j'ai pas pu retourner le voir et discuter avec lui plus davantage. Mais avant que je quitte, il est venu me voir et je me souviens, pendant qu'on parlait, je lui décrivais, parce que sa femme, c'est, je pense pas que j'ai une photo d'elle, mais vous rappelez peut-être, c'est Maimona, c'est la femme qui peut pas avoir de bébé. Alors, sa femme était venue voir Sophie. Puis je racontais à Abou comment les femmes étaient émues, puis qu'il en pleurait un peu. Et lui-même m'a dit, en homme macho, même s'il porte du rose, en homme macho de Touareg, il dit, même moi, il dit, si je continue de te regarder, je vais pleurer. Fait que j'ai réalisé que ça faisait 15 minutes qu'on se parlait sans se regarder. Et j'avais pas nécessairement compris, mais lui, finalement, il était ému même, de la même façon. Mais c'est ça, il y avait un lien qui s'était établi, il y avait un lien humain qui s'était établi, qui avait facilité la parole de Dieu d'avoir accès à Abou et à sa femme, pour ceux qui se rappellent de l'histoire. Alors ça, c'est juste une classe des enfants. Alors, dans d'autres occasions comme ça aussi, pendant qu'on fait notre travail, notre service, notre aide, on leur parle la parole de Dieu, on leur témoigne et on leur montre qu'on est croyant, mais on leur donne des paroles qui modifient, qui changent, qui a leurs propres idées. Hein, l'exemple, je parlais du chien, de l'homme qui méprisait les gens plus foncés, les noirs, en disant, ah, ce sont juste des esclaves, des animaux. Eh bien, je faisais pas seulement dire, hey, tu vas aller en prison si tu vas dans mon pays. Mais ça, c'était quand je suis arrivé au Niger, c'est comme ça que je répondais. Et peu à peu, j'ai commencé à répondre de d'autres façons. Justement, à travers la parole de Dieu, pour révéler que Dieu a créé tout homme à son image. Et là, on voit ici les enfants qui sont en train de manger, d'ailleurs. Ils sont, bon, vous avez vu le modèle, hein, ils sont en petit groupe. Mais avec toutes ces expériences-là, ce que je pourrais dire, ce qu'on découvre, c'est que de traiter des gens humainement, de les traiter, de ne pas les regarder d'abord comme des pécheurs, à l'exemple des co-citoyens de Zachée, de pas les regarder tout de suite avec le jugement, avec la critique, de dire, ah, hein, on rencontre quelqu'un dans la rue, c'est instantané, on a une idée dans notre tête. On dit, lui, il a de l'air digne de confiance, ou lui, il a de l'air, louche. Tu sais, on développe cette façon de penser. Mais quand on prend le temps de regarder l'attitude de Jésus face aux plus misérables, face aux plus... aux plus pauvres, face aux plus malades. Hein, Jésus, un jour, rencontre un homme dans un cimetière. C'est pas vraiment un bel endroit, hein, pour rencontrer quelqu'un. Tout de suite, hein, on aurait un a priori. Hein, on se dirait, oups, s'il y a quelqu'un qui se tient dans un cimetière, tout nu, blessé, avec des restants de chaînes autour de lui, on se dit, ah, lui, il est louche. Hein? Peut-être que je vais pas perdre trop de temps avec lui. Et j'imagine les disciples quand même qui disaient, Seigneur, on peut peut-être faire le tour. Mais Jésus voit autre chose. Et Jésus voit l'homme et hein, on connaît l'histoire, Jésus va chasser les centaines ou les je ne sais pas combien de démons qui étaient. Hein?
Les légions.
Oui, c'est ça, les légions. Et je sais que ça représente un chiffre, mais tu sais, il chasse une légion de démons. Et l'homme devient saint d'esprit. Et malgré ce miracle-là qui est arrivé, les villageois, les autour, là, qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent voir Jésus? Et puis qu'ils voient l'homme transformé, ils voient l'homme saint d'esprit, ils voient l'homme qui est guéri. Qu'est-ce que les villageois voient? Et probablement qu'ils ont dû avoir de la peine à le reconnaître. Hein? J'imagine qu'ils ont dû l'habiller. Il y a dû un disciple qui a prêté un deuxième vêtement, quelque chose. Les villageois disent à Jésus, hey, « peux-tu changer de bord de lac? Peux-tu tourner de l'autre côté? » Ils n'arrivent pas à voir ce que Jésus a vu. Ils n'arrivent pas à voir ce que Jésus a fait. Mais ce qui est plus fantastique, qu'est-ce que l'homme a resté là combien de temps avec Jésus? Soyons généreux, donnons-y une journée ou deux jours avant que les villageois viennent. Là, je suis généreux, ça s'est peut-être passé en une heure, deux heures, je ne sais pas. Mais tout de suite, qu'est-ce que Jésus fait avec ce guéri-là? Il l'envoie. Il dit, va raconter aux gens ce que Dieu a fait dans ta vie. Et quelle confiance! Hein? Imaginez quelqu'un qui vient, il donne sa vie à Jésus, il vit un miracle. Jésus voit tout de suite l'œuvre de Dieu dans la vie de cet homme-là, puis il l'envoie. Il dit, go, va annoncer aux gens ce que Dieu a fait dans ta vie. Et Jésus a vu, pas seulement le miracle que c'est arrivé, mais il avait vu déjà à l'avance que c'est un homme qui est à l'image de Dieu, qui était précieux aux yeux de Dieu. C'est pour montrer le genre de travail qu'on fait avec dans le village de Taguintasso, entre autres, on fait la cantine, on nourrit les gens, et un jour, on a amené des dentistes. Les gens, je pourrais dire 99% des villageois n'avaient jamais vu un dentiste. Mais ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez jamais vu une bouche comme quelqu'un de Taguintasso non plus. Et les gens souffrent beaucoup. Hein? Est-ce que quelqu'un a déjà eu mal aux dents? Heureusement, il y a un dentiste qui n'est pas loin. Combien de temps le plus longtemps que vous avez enduré un mal de dents? Ouais. Une nuit, peut-être, si vous êtes courageux, peut-être quand vous buvez de la liqueur, c'est froid dans les dents, vous avez enduré ça peut-être pendant quelques semaines. Mais il y a toujours un dentiste pas trop loin. Mais au Niger, si tu voulais aller voir le dentiste, il faut aller à la capitale. C'est minimum 100 km de Taguintasso. Et là, il faut vous payer le même prix que vous payez ici pour un traitement, pour une carie. C'est à peu près 100 $. Je ne sais pas, c'est peut-être plus cher maintenant, mais c'est pas loin de 100 $ voir un dentiste pour une carie. Alors, les villageois ne pouvaient pas. Nous, on leur a demandé 1 piastre. Mais c'est sûr qu'on ne rénovait pas toute la bouche. Mais au moins, la dent la plus souffrante, il l'enlevait. Et j'ai vu... malheureusement, j'ai été obligé d'être là parce que j'étais traducteur entre l'anglais et le touareg. Et j'étais traducteur et je me souviens que le dentiste, un jour, à un moment donné, il y avait la pince pour arracher. Il dit, tiens, tu veux-tu essayer? Non, merci. J'essaie même de ne pas regarder, là. Parce que les dentistes, ils ont vu des choses qu'ils ont seulement vues dans des livres, dans des cours à l'université. Hein? Et là, ils me disent, oh, regarde ça! Et eux, ils étaient fascinés. J'ai dit, merci. Moi, je vais jeûner tout à l'heure, là, c'est bon. Mais j'avais expliqué aux dentistes qui sont des chrétiens, qui vont dans des églises et qui sont venus pour servir Dieu au travers leur métier, leur talent. On est resté là 3 jours. J'ai dit, on ne parle pas de Dieu directement. On ne dit pas aux gens... Jésus est sauveur, on ne parle pas directement, on reste juste tranquille. Mais peu à peu, pendant qu'on était là, c'est vrai que c'est peut-être surtout à moi que c'est venu parce que je pouvais parler avec les gens ils me disaient, parce qu'ils savaient qu'on était chrétiens, ils nous disaient, hey, moi un jour je suis allé dans tel pays ou dans telle place et j'ai entendu un missionnaire qui m'a dit telle chose, et là il me disait l'évangile, il me racontait la parole de Dieu. Ils me racontaient ce qu'ils avaient entendu. Et là, je me disais, hey, c'est incroyable. J'aurais pu me forcer pendant des heures à leur expliquer ça. Et eux, par simplement notre présence, le Saint-Esprit est en train de tout leur rappeler. Ils savaient tout ça déjà, dans beaucoup de cas. Ils l'avaient entendu à un moment donné. Et là, je me disais, c'est incroyable, j'ai rien dit. Pour les dentistes, je suis allé leur raconter aux dentistes après, puis je dis, là, vous pensez que vous ne faites rien spirituellement, là, mais il est en train de se passer quelque chose. On fait juste prendre soin d'un être humain, mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans la pensée des gens. Et c'est ce que un des miracles que je dirais, pour moi, ça, c'est un miracle. J'aurais pu m'évertuer à parler, je ne sais pas s'il aurait retenu. On n'a rien dit ouvertement, mais eux, ils se sont rappelés plein de choses. Et c'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait dans leur cœur. Alors ça, c'est une des bénédictions que Dieu a faites au travers une œuvre très terre-à-terre. Alors avant notre départ, comme vous savez qu'on était empêchés d'aller dans les villages, on s'est mis de plus en plus à travailler avec des gens locaux, des chrétiens locaux, même si ils sont noirs, même s'ils sont foncés. Parce qu'il y a tout pendant des années, il y avait les premiers missionnaires ont ciblé les nobles, les plus rouges parmi les Touaregs. Et Tagintasu est un village de cultivateurs. Ça vous donne un indice. C'est les gens moins nobles, qui sont plus méprisés. Quand j'avais raconté à Mohamed, mon ami qui me parlait qui comparait les enfants aux chiens, quand je lui ai dit que je m'en allais dans ce village-là, quand je lui ai dit que je m'en allais dans ce quartier-là, dans cette région-là, il était extrêmement déçu. Pour lui, j'allais perdre mon temps. Mais en même temps, ça lui disait quelque chose. Hein? Son ami Daniel n'est pas là seulement pour les nobles. Et donc, le Dieu de Daniel n'est pas là seulement pour les nobles. Alors, on travaille avec Frédéric qui, lui, a fait une pépinière. Là, ce qu'on voit dans les petits pots, c'est des petits arbres qu'il est en train de faire pousser pour aider les cultivateurs à mieux prendre soin de leur champ. Et au travers de ça, la même chose à Frédéric, celui qui était là avant, bien, je lui ai sorti tous des versets bibliques qui parlent des arbres. Connaissez-vous un verset biblique qui parle d'un arbre? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Psaume 1, hein? Celui qui médite la parole jour et nuit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Un autre exemple? Oui, l'arbre qui porte fruit, en effet. Hein, c'est... Oui, la semence, hein, c'est... Il y a plein d'exemples. Alors, j'ai sorti les versets et j'ai dit, quand tu vas vers les villageois, fais juste leur dire ces versets-là pendant que tu fais la formation. Et un des versets, parce que un cultivateur que ça fait dans son champ, ça coupe les arbres. Alors, moi, je disais, il faut les encourager de garder les arbres parce qu'au Niger, la terre est pauvre. Alors, je dis, tu leur diras que Dieu, au tout début, il a planté un champ. Il a mis des arbres dans le champ et il a dit à Adam, tu vas prendre soin des arbres. Donc, comme ça, l'enseignement que Frédéric donnait sur l'importance des arbres, elle n'est pas juste la technologie des Blancs, la science des Blancs, c'est une sagesse biblique, une sagesse qui vient de Dieu même. Et de la même façon, ça c'est un groupe qui réunit des membres de quatre églises et à qui j'ai formé pour aller aider justement les gens autour d'eux, pour se tourner. Ils voulaient faire de l'évangélisation. Ils se disent, comment on peut faire pour faire plus d'évangélisation? Alors j'ai dit, allez pas leur dire, vous êtes pécheurs, vous allez en enfer, tournez-vous vers Jésus. J'ai dit, faites pas ça. Allez les voir et dire, hey, comment on peut vous aider? Comment on peut vous aider humainement? Puis, vous allez bâtir une crédibilité. Et ces gens-là étaient tellement enthousiastes. Encore aujourd'hui, justement, ils ont accès à des courriels. Ils m'envoient des courriels. Ils me disent, on est en train de faire ça. On a tout ça qui va bien. Peux-tu nous aider de telle façon? Et apparemment, qu'un courriel qu'ils ont mal compris. Et de façon fascinante, j'ai reçu un téléphone samedi. C'était Denis. Denis qui m'a demandé des nouvelles. Et pendant que Denis est au téléphone, il me parle parce qu'il avait trouvé... souvent, j'avais écrit mon numéro de téléphone, mais ça veut dire qu'il a payé lui-même les frais de téléphone. C'est minimalement une pièce la minute. Ça, c'est minimal. Il y en a peut-être... ça peut même aller jusqu'à... j'ai dit une pièce. Je pense que c'est 1 € la minute. Alors, ça fait une pièce et demie. Et là, Denis qui m'appelle, puis il dit, « Monsieur Daniel, tu dors? » Je dis, « Oui, Denis, c'est chez moi, c'est la nuit, là. » C'était 3 heures, mais j'étais tellement déçu, mais je dis, écoute, Denis, je suis tout là, c'est pas grave, tu sais, j'ai un appel de Denis, je t'écoute. Il dit, je t'appelle plus tard. Il raccroche. parce qu'il ne voulait pas me déranger mon sommeil, mais il m'a rappelé quelques heures plus tard seulement. Alors, il a été quand même mon réveil matin encore, mais c'était pas. J'étais quand même béni, je dois vous dire, j'étais énormément béni. Et alors, ça, ce sont quand même des chrétiens qui sont à Tibérie et qui ont à cœur leur co-citoyen. Rapidement, je pense que vous avez déjà entendu parler peut-être, Alima, qui est aussi la femme que Sophie a formée, pour enseigner aux gens comment prendre soin de la propreté, comment laver, l'hygiène exactement. Et un jour, Alima est dans un village à Tagantasu et elle raconte que c'est important que quand tu vas aux toilettes, parce que les gens ils vont n'importe où, en fait, ils vont dans la brousse, hein, toute la nature elle est là pour eux et c'est écologique en même temps, dans un sens. Hein. Mais elle leur dit, Moïse, le prophète Moïse a dit que quand tu vas en brousse là, comme ça là, pour faire ton travail d'hygiène, apporte une pelle et enterre ce que tu as. Parce que Dieu est au milieu de il est là parmi toi, parmi vous, et il vous protège. Et donc, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut enterrer ça, enterrer nos excréments, parce que ça attire des maladies. Mais puisque Dieu nous protège, il faut les enterrer. Et quand elle continue sur les autres leçons, sans s'arrêter là-dessus, c'est pas une étude biblique qu'elle fait. Et les femmes ont dit. Tout ça, on le savait, hein, parce qu'on connaît beaucoup de conseils, hein, qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce que nous-mêmes, hein, oh, je sais, je devrais pas manger 3 portions de dessert, oh, je le sais, on le sait tous, tu sais. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on connaît, mais est-ce qu'on l'applique? Ah, je sais, je devrais faire de l'exercice. Alors, les femmes à Tagantasu, tout le monde le sait que, ah, ben oui, on devrait, hein. Mais là, il y a une femme qui a dit, mais ça, on ne savait pas. On ne savait pas que Dieu dit. Qu'il nous protège et que c'est important d'enterrer ce qu'on fait. Et c'est de cette façon-là, au travers de ce travail qui est tout à fait humain, qu'on réussit à apporter un changement puis la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Et Alima encore, elle continue de retourner. On n'est pas là, hein? On est au Canada, on est en face de vous. Vous ne me voyez pas tous les dimanches, mais on a froid, là, on est ici. Mais Alima, elle, qui a toujours chaud, certainement, elle continue d'aller à Tagantasu, elle continue de faire ce travail-là, et on est obligé de bénir Dieu pour le travail d'Alima, de Denis, Frédéric et les 4 églises qu'on a vues. Parce qu'eux continuent d'aller vers les Touareg aussi, pour leur faire du bien. Alors voici, justement, je vais clore ici, parce que je vous ai beaucoup parlé. Et j'ai modifié notre blog. En fait, si vous avez l'habitude d'y aller, c'est toujours de la même façon, mais c'est pour que ce soit plus simple, vous pouvez aller à parmilesnomades.info. Et mais aussi en conclusion, j'aimerais, comme je le dis, c'est pas seulement pour les Touaregs. Je sais que nous tous, hein, on visite des gens, on croise des gens, et c'est la bénédiction. Je vois que notre Église, on voit qu'autour de nous, il y a des êtres humains qui ont des besoins. Hein? Et ça, c'est une bénédiction. On fait bien. On est dans une bonne voie en tant qu'Église. Je crois que Dieu est en train de nous bénir parce que justement, ça nous permet d'aller puis de voir autour de nous les êtres humains avec leurs besoins. Parce que nous aussi, on est humains. Mais rappelons-nous aussi de trouver comment on peut parler la parole de Dieu là-dedans. Comment on peut leur montrer simplement, sans les agresser, que la source de notre action, c'est Jésus. C'est le cœur de Dieu pour le monde. Amen. Penchons nos têtes, prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es vivant. Et on veut s'inspirer de toi, on veut marcher dans tes voies. On l'a chanté tout à l'heure. On l'a chanté tout à l'heure que on veut que tout soit pour toi. Et je te prie, Seigneur Dieu, de continuer de nous guider comme ça, de continuer à nous aider à voir les gens autour de nous. Avec cette foi, avec tes yeux, avec ton amour, avec ta grâce. Tout en sachant que nous-mêmes, on a des faiblesses. Tout en sachant que nous-mêmes, il y a des jours que on est plus irritable que d'autres. Qu'on est plus fatigué que d'autres jours.
continue de nous guider, Seigneur Dieu. Et en même temps, montre-nous les hachés de ce monde qui te cherchent, qui ont soif de toi, pour qu'on puisse justement, je pourrais dire, les délivrer, les affranchir par ton regard, par ta parole, par ton évangile. C'est dans le nom de Jésus qu'on te donne nos mains, nos yeux, nos pensées. Amen.